J-9 pour l'Italie et pour la France en tout cas. Dimanche 26 mai, ces deux pays voteront pour élire leurs nouveaux députés au Parlement européen en brayant sur les autres pays membres de l'Union européenne. À quelques jours de ces élections, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini a donc invité 12 partis souverainistes et identitaires européens à un sommet à Milan, c'est aujourd'hui, afin de penser l'alternance nationaliste à l'Union européenne et dans le but de constituer une troisième force au Parlement européen. Marine Le Pen y participera, la présidente du Rassemblement national a qualifié cette réunion d'historique, même s'il reste de nombreuses divergences entre les partis d'extrême droite, et l'ancien conseiller spécial de Donald Trump, Steve Bannon, qui est en ce moment même en France, qualifie cette élection européenne d'un tremblement de terre. Bonjour Giuliano D'Ampoli.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'ancien conseiller politique de Matteo Renzi, qui fut chef du gouvernement de 2014 à 2016. Aujourd'hui, vous dirigez le think tank Volta, qui est aussi basé à Milan. Vous êtes essayiste. Votre dernier livre a paru il y a 2 mois. Il s'intitule « Les ingénieurs du chaos ». Il est paru chez Jean-Claude Lattès et il est fort intéressant pour notre sujet du jour. Nous y viendrons tout à l'heure après la revue de presse de Natacha Triou. Vous vivez entre l'Italie et la France. On l'a entendu dans le journal. Je voudrais vous poser une première question sur cette ville de Milan. C'est la ville de Salvini. Est-ce que ça veut dire que c'est une démonstration de force qui doit se passer aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Surtout, ce qui est intéressant dans la réunion d'aujourd'hui, c'est qu'on voit que les nationaux populistes sont les seuls, d'une certaine façon, à faire une véritable campagne à la dimension européenne, ce qui est le grand paradoxe de ces élections, c'est-à-dire, et un peu la grande nouveauté par rapport au passé, c'est-à-dire que ces mouvements qui revendiquent justement un retour en arrière à l'intérieur de frontières nationales, une Europe des nations, etc., de façon un peu paradoxale, avec l'aide de personnages comme Steve Bannon, mais pas que lui, et Salvini a beaucoup ça dans son ADN de toute façon, ils sont en train de donner une véritable démonstration de force, surtout en termes d'unité de message, de capacité de marcher unis ensemble, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à récemment. Et si vous voulez, du point de vue des politiques et des choix politiques, ils sont souvent opposés, parce que si on pense à l'immigration, ils sont pas vraiment d'accord là-dessus.
Sur l'économie non plus, il y a quand même des divergences
et
des divisions.
Il y a de très grandes divergences, mais ils arrivent en termes de communication et de campagne politique à donner l'impression que c'est un front uni qui va balayer l'Europe traditionnelle, enfin l'Europe telle qu'on l'a connu jusque-là. Ce qui n'est pas vrai non plus, parce qu'on sait bien que les chiffres des prochaines élections européennes, a priori, ne permettent pas d'imaginer qu'il y ait une majorité nationale populiste au prochain Parlement européen. Mais d'un point de vue symbolique, c'est très fort.
Les dernières estimations concernant en tout cas la Ligue, que dirige Matteo Salvini, donnent le crédit de 30 à 35% de voix. On est passé de 35 à 30-32, mais ça reste au-dessus de 30%. Il devrait entrer donc en force, malgré tout, au Parlement européen avec 26 eurodéputés. C'est 20 de plus qu'aujourd'hui. C'est quand même vraiment une démonstration de force.
Sa performance politique en Italie,
s'il réussissait,
du coup, elle est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire, Salvini part d'un résultat déjà assez élevé de 17% aux élections de l'année dernière. Et aujourd'hui, à distance d'un an, il va plus ou moins, c'est ce que disent les sondages, doubler son score. Donc c'est tout à fait, son succès personnel et politique est tout à fait extraordinaire.
Comment l'expliquer ce succès, cette popularité encore aujourd'hui, un an après son entrée en fonction, Giuliano D'Ampoli?
C'est évidemment, il a des conditions assez favorables, c'est-à-dire il a une alliance de gouvernement avec justement le mouvement 5 étoiles, qui est une sorte de, on y reviendra, deviendra peut-être plus tard une sorte de parti algorithme qui n'a pas de vraie position politique. C'est simplement un instrument de marketing politique qui réagit par rapport à des stimulations qu'il peut recevoir et qui est complètement écrasé en termes de message et de force du message par Matteo Salvini, qui lui a un agenda politique beaucoup plus net, qui occupe la position de ministre de l'Intérieur et qui a donc pu faire cette campagne tout à fait effarante et incroyable, non seulement par rapport aux migrants, avec ces histoires de port et de même tous les jours, on a le paradoxe d'un ministre de l'Intérieur qui incite à la xénophobie et à la peur sur les réseaux sociaux, ça ne s'était jamais vu avant, mais c'est un message avec justement le support de plateformes informatiques qui l'utilisent beaucoup. C'est le leader européen le plus suivi sur Facebook, avec 3,5 millions de personnes qui le suivent. C'est plus que Macron, Merkel ou que les autres leaders populistes. Et donc, tout ça allié dans le cas de Matteo Salvini avec quand même une expérience politique considérable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, justement, à Milan, s'est formé pendant 20 ans en étant sur les bancs du conseil de la ville de Milan. Il a fait de la radio, il a fait la radio de la Ligue. Il a beaucoup d'expérience et d'habileté dans la manœuvre politique aussi. Et donc, ces deux aspects, disons, d'un agenda politique radical et d'une capacité quand même de manœuvre politique qui en Italie et peut-être un peu partout est quand même nécessaire pour un leader politique, l'ont porté à être le dominateur, je dirais, incontrasté du panorama politique italien en ce moment.
Et plus largement, est-ce que ça en fait l'homme fort de l'Europe, comme le titre Le Point français cette semaine, Giuliano Nampoli?
C'est probablement le leader de cette mouvance-là qui a, au cours de au moins de la dernière année, le plus capturé l'imaginaire des nationaux populistes. Même Viktor Orban, dans une interview récente à un journal italien, la Stampa, a dit non, mais écoutez, oui, moi je suis là, mais notre vrai leader, c'est Matteo Salvini. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il est très rusé, Orban, donc on va peut-être pas rentrer là-dedans.
Et il ne participera pas justement aujourd'hui au rassemblement.
Il ne participera pas parce qu'il est au gouvernement. Il fait encore partie quand même du Parti Populaire Européen, même s'il a été suspendu, alors que les Allemands ont déjà dit que Salvini n'y entrera jamais. Et il y a eu une déclaration d'un nouvel leader du Parti Social, du Parti Christiano-Démocrate allemand, AKK, qui a dit Salvini ne fera jamais partie de notre mouvement. Salvini, mais paradoxalement, ça le libère. Orban, il a quand même des limites par rapport à ce qu'il peut dire et à ce qu'il peut faire. Alors que Salvini, il a pas vraiment de limites. Et on le voit en Italie tous les jours, où il reprend de façon consciente des postures mussoliniennes. Il se penche à partir des mêmes balcons où Mussolini a fait des discours historiques, et il a des slogans qui rappellent un peu cette saison-là, et puis il a un côté du coup par contre très post-moderne de selfie, de lui qui mange la pizza, de populisme gastronomique et tout ce que vous voulez. Donc c'est effectivement probablement aujourd'hui le leader national populiste le plus visible et le plus fort qu'il y a en Europe.
Qui a-t-il en face en Italie?
En face.
Dans quel état est la gauche social-démocrate italienne?
C'est une gauche qui est un peu perdue, parce que on y viendra peut-être. Il y a eu quand même justement la tentative de Matteo Renzi qui naît déjà dans un contexte dominé par le populisme, parce qu'il faut bien voir que l'Italie est un laboratoire de ce point de vue-là.
Et il le reste.
Et il le reste. Et ça, pourquoi ? Parce que c'est un pays où cette colère, cette rage contre les élites, elle vient de très loin et elle domine la situation politique depuis un quart de siècle, depuis le début des années 90. Et donc c'est ça qui a produit Berlusconi aussi, c'est ça qui a produit des expériences quand même. C'est pour ça qu'on peut un peu la considérer la Silicon Valley du populisme. Matteo Renzi naissait déjà là-dedans. Et donc c'était une tentative de récupérer une partie de cette énergie populiste, parce qu'il y avait un côté populiste dans la proposition de Matteo Renzi aussi. Il y avait un côté dégagiste, on va se libérer des vieux dirigeants, il va y avoir des jeunes qui vont venir et qui vont... Mais c'était une tentative de récupérer cette énergie et de la porter plutôt dans une direction pro-européenne, internationale, etc. Et vu que ça n'a pas marché, c'est-à-dire ça a marché pendant un moment et puis ça n'a plus marché, aujourd'hui la gauche en Italie, elle revient un peu sur une posture un peu plus traditionnelle, mais elle est quand même, elle est un peu en légère reprise dans les sondages, donc elle va, le Parti démocrate va probablement passer de 18% à 22, 23, bon c'est déjà quelque chose. Mais évidemment, face à cette vague nationale populiste qui gouverne l'Italie et qui est très forte dans la société, pour l'instant, il n'y a pas de vraie réponse.
Vous appartenez, Giuliano D'Ampoli, à une génération plutôt jeune encore, qui a grandi dans une Europe qui était déjà construite, mais une Europe dans laquelle on se vit européen comme une évidence. De quoi a manqué l'Europe ? Comment en est-on arrivé là, face à cette vague de nationalisme, le retour aux frontières, vous en parliez tout à l'heure.
Je crois que on est sur France Culture et donc on peut vraiment dire que l'Europe a eu peur, et pour des bonnes raisons, de tout le côté culturel, identitaire, des symboles, de vraiment construire des émotions, si vous voulez, autour de la construction européenne. Ça s'est fait dès le début, parce qu'on pensait que les cultures en Europe étaient plutôt un facteur de division, que les identités étaient un facteur de division. Bon, évidemment, il y avait des raisons pour penser ça, et donc toute la construction s'est faite en réalité de façon tout à fait technocratique, non, en pensant que le sentiment serait venu après de façon naturelle, parce qu'il y aurait eu une union de fait de plus en plus intense entre les intérêts des différents pays. Et c'est vrai, ça a bien marché, je veux dire, on ne peut certainement pas blâmer les pères fondateurs de l'Europe pour avoir dévisé une stratégie de ce type. Mais entre-temps, on a vraiment complètement oublié... Bon, il y a eu des crises, hein, d'abord. Il y a eu des crises, une crise financière et une crise migratoire qui ont changé la donne et la perception des gens sur ça. Et quand ces crises sont arrivées, il n'y avait pas véritablement de sentiment européen, d'appartenance européenne, d'émotion et de culture européenne qui puissent faire face à la vague, du coup, de sentiments, d'émotions, de pulsions identitaires qui ont été déchaînées par ces nouveaux mouvements nationaux populistes. Au fond, eux, ils ont compris quelque chose de très ancien dans la politique, c'est-à-dire que la politique, c'est pas que des intérêts, des slides, des chiffres et tout, mais c'est énormément et toujours, justement, un besoin d'identité, de culture, d'appartenance et tout ça. Et ils ont exploité ça à leur manière. Et nous, de l'autre côté, les pro-européens, on était un peu, on a été et on reste assez désemparés face à ça.
Giuliano D'Ampoli est notre invité, ancien conseiller politique de Matteo Renzi, chef du gouvernement italien de 2014 à 2016. Vous êtes l'auteur, Giuliano D'Ampoli, de ce livre « Les ingénieurs du chaos » paru chez Jean-Claude Lattès il y a à peine 2 mois. C'est un livre qui analyse la montée des populismes, justement, comme le fruit d'un double mouvement, d'abord d'une colère, et puis une colère qui aurait été alimenté, voire excité par les nouvelles technologies. C'est bien ça ?
Tout à fait, c'est-à-dire, la colère, d'une certaine façon, on a toujours connu ça, ça fait partie de toute société. Il y a un philosophe allemand qui a analysé ça, qui s'appelle Peter Sloterdijk, et il dit, dans le passé, il y avait des mouvements et des institutions qui géraient la colère, hein, des sortes de banques de la colère. C'était d'abord, dit-il, l'Église, et puis les partis de la gauche, surtout au cours du XXe siècle. Bon, la transformation et le déplacement vers le centre des grands partis sociodémocrates a libéré une place, disons, pour la gestion de la colère, parce que, évidemment, si vous êtes au gouvernement et si vous acceptez les lois plus ou moins du marché, vous ne pouvez plus être titulaire à gérer la colère des peuples. Et là, par contre, donc la colère, elle est là, elle monte dans certaines phases, elle est en train peut-être de monter en cette phase. Mais les ingénieurs du chaos sont des gens qui ont compris qu'il y a aujourd'hui des technologies qui permettent d'exploiter cette colère de façon tout à fait extraordinaire.
En gros, les nouveaux gestionnaires après l'Église et les partis, c'est les algorithmes. D'une certaine
Façon,
façon.
oui, parce que on importe en politique la logique de Google et de Facebook. Facebook, ça marche comment? Ce n'est pas une machine nécessairement à propager des fake news et des théories du complot. Facebook a un seul paramètre, c'est l'engagement des gens qui viennent sur la plateforme. Alors si vous êtes sur Facebook, vous faites clic sur des poésies de Rainer Maria Rilke, Facebook va vous envoyer des poésies, de gentilles poésies, et vous serez bientôt dans une bulle poétique où toutes vos informations seront liées à ça. Par contre, si vous faites clic sur la nouvelle, sur l'information qui ne doit pas nécessairement être fausse, ça peut être une vraie information d'un crime commis quelque part par un immigré illégal, quelque chose qui s'est mal terminé. Alors, vous faites ça et puis Facebook vous inonde d'informations vraies et fausses, hein, et d'opinions qui vont aller dans cette direction. Et donc vous allez très rapidement être dans une bulle où vous ne voyez que ça. Et la nouvelle politique, elle marche comme ça, elle s'appuie sur ces technologies-là. Elle peut donc cibler de façon très précise les personnes et les groupes selon leurs intérêts, ce qui les excite, ce qui les met en colère, et elle va les bombarder de messages de ce type. Et donc, elle va surexciter des groupes, même avec des messages contradictoires entre eux. C'est ce qu'on a vu dans la campagne du Brexit, par exemple.
Elle s'appuie sur les technologies, mais comme l'explique Antonio Casilli dans un livre récent, elle s'appuie sur des humains aussi. En l'occurrence, les humains là ne sont pas des petites mains du capitalisme, des algorithmes et de Facebook, mais en l'occurrence, ce sont les grands stratèges, les spin doctors, dites-vous, ceux donc précisément que vous appelez les ingénieurs du chaos, Giuliano D'Ampoli. Je voudrais que vous nous en preniez quelques exemples. Alors, Steve Bannon, on le connaît assez en France, mais il y en a deux qui sont des Italiens, qu'on connaît beaucoup moins, et c'est passionnant ce que vous racontez. Par exemple, Gian Roberto Casaleggio, qui est décédé, hein, il est mort en 2016, mais vous dites que c'est le véritable inventeur du mouvement des 5 étoiles.
C'est extraordinaire son histoire, c'est-à-dire lui c'est un expert de marketing sur Internet qui disait d'ailleurs: moi je ne m'occupe pas de politique, je m'occupe d'opinion publique. Et donc, lui, au début des années 2000, il comprend que le jeu politique va changer, va être changé par les nouvelles technologies. Il comprend aussi qu'il ne peut pas fonder un parti Internet parce que personne va le suivre sur ça, personne va être intéressé. Et donc, il va chez un monsieur qui s'appelle Beppe Grillo, qui est un comique très connu en Italie, et lui dit: on va faire un blog. Et donc, Beppe Grillo commence à faire ce blog avec des invectives, avec son style très particulier et très amusant aussi. Seulement, ce n'est pas lui qui l'écrit. Tout le monde pense que c'est lui qui l'écrit, mais en réalité, c'est dans la boîte de Casaleggio à Milan, encore une fois, que tous les commentaires sont analysés et on ne relance que les thèmes qui sont les plus porteurs. S'il y a plus de commentaires sur un thème, on va là on coupe tout ce qui ne porte pas en termes d'audience et de d'engagement. Et donc on commence déjà au début des années 2000 à construire un mouvement avec les données des adhérents qui sont analysées constamment. Qui va devenir le mouvement 5 étoiles, c'est-à-dire qu'à partir de là, le blog va se transformer justement dans ces grandes journées de mobilisation dont je parlais avant, les vidées. Après, ça va devenir un véritable mouvement politique, mais toujours exactement, donc avec d'autres porte-paroles par rapport à Grillo, il va y avoir d'autres personnages, tous sélectionnés sur Facebook, sur la base, disons, de l'engagement et du succès qu'ils ont sur ces plateformes, avec un côté économique aussi, parce que ça finance le mouvement, toute l'activité sur Internet. Et donc, le mouvement va s'accroître et il l'applique justement. Véritablement, ce n'est pas un parti, c'est un algorithme. C'est comme si Cambridge Analytica, au lieu d'être engagé par une campagne électorale, la campagne Trump ou la campagne du Brexit, avait fondé son propre parti avec ses propres représentants.
Mais c'est peut-être ce qui a fait de Beppe Grillo une marionnette plutôt qu'un véritable homme politique, Giuliano D'Ampoli. C'est pas le cas de Matteo Salvini, dont vous disiez tout à l'heure que c'est un très grand politicien qui peut-être s'est appuyé sur, à la fois sur la colère et sur cette nouvelle technologie. Il a aussi un conseiller numérique d'ailleurs.
Ah oui, lui, il a un conseiller numérique qui est très bon. Encore une fois, Luca Morisi, qui est un professeur de philosophie, un PhD de philosophie qui a enseigné pendant 10 ans à l'université. Donc c'est souvent des personnages plutôt sophistiqués qui sont derrière une façade qui peut avoir une apparence ou même une substance assez rustique. D'ailleurs, justement, Salvini ne se fera jamais prendre lisant un livre ou faisant un quelconque geste, disons, culturel, intellectuel, parce que non, les radical chics, c'est ceux qui ne comprennent pas le peuple et qui... Mais derrière, justement, dans ce cas aussi, il y a Luca Morisi qui a construit une machine qu'il appelle lui-même la bestia, la bête, et c'est encore une fois une grande machine d'analyse des données de toutes les activités digitales du leader Matteo Salvini, qui marche un peu sur le modèle du mouvement 5 étoiles, c'est-à-dire là l'habilité de Salvini, ça a été quand même de s'appuyer sur le travail qui avait été fait par Casaleggio dans le mouvement 5 étoiles. D'ailleurs, il ne serait pas au pouvoir avec son 17% sans le 32% du mouvement 5 étoiles, mais il a vraiment utilisé cette plateforme-là, qui justement est une plateforme assez neutre en termes de contenu, qui ne marche qu'à l'engagement et qu'à l'émotion, pour y mettre dessus, du coup, son agenda politique, son programme, qui marche aussi très bien sur les réseaux sociaux, parce que ça évidemment, ces thèmes de peur, de confrontation, d'ennemis et de création constante d'ennemis, c'est du pain béni pour les réseaux sociaux.
Et c'est précisément ce sur quoi, cette semaine, un rassemblement politique, cette fois, a eu lieu en France, avec la première ministre néo-zélandaise et le président Emmanuel Macron, qui ont lancé l'appel de Christchurch pour tenter de lutter contre les discours haineux et violents sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook. Précisément aussi pour cette raison, je voudrais vous demander, vous qui préparez le deuxième volet des ingénieurs du chaos de Giuliano D'Ampoli, si c'est une bonne façon, cet appel, de renverser la tendance, ou si il y a d'autres solutions aujourd'hui, s'il est trop tard, enfin comment on s'y prend pour faire face à tout ça?
Je ne crois pas qu'il soit trop tard. D'ailleurs, entre l'invention de la voiture et l'invention du feu rouge, il y a eu 30 à 40 années qui sont passées. Il doit y avoir eu beaucoup de crash et de, donc là on est face à de nouveaux instruments, il va falloir réguler. Moi je ne crois pas tellement dans l'autorégulation des plateformes. L'appel justement a été souscrit aussi par les grandes plateformes plateformes Facebook, etc. Moi, je pense qu'il va falloir, du coup, par contre, réguler ça au niveau de loi et de...
Peut-être européen, déjà.
Sûrement européen. Je suis relativement optimiste sur ça. C'est-à-dire que au niveau européen, il y a quand même un processus qui s'est mis en marche. Il y a un règlement qui décide déjà que les données de chacun d'entre nous n'appartiennent pas aux plateformes, mais elles appartiennent aux usagers. Il y a une nouvelle directive sur le droit d'auteur. C'est des petits pas, mais qui sont en train d'être faits. Ça prendra quelque temps, mais ça sera fait.